routine que vous allez suivre est une rediffusion.
On s'est toujours adapté. On est un peuple résilient. Ça fait tellement d'années qu'on est là. Et on est toujours là. Et on sera là toujours.
C'est le baromètre mondial du changement climatique. Au cours des 100 dernières années, l'Arctique a connu un réchauffement moyen de 1,5 degrés, parfois jusqu'à 3 dans certaines régions du Canada. Les 160 000 Inuits qui y vivent sont les témoins de ce changement de leur environnement. Dans le Grand Nord canadien, les aînés, comme les scientifiques, relèvent de plus en plus les impacts réels de ce réchauffement. Direction le nord des territoires du Nord-Ouest, au Canada, tout en haut, au-dessus du cercle arctique. La résilience des Inuits face au changement climatique, c'est un grand reportage de Marie-Laure Josselin.
C'est dur, c'est la neige hivernale. On est en plein milieu de l'hiver actuellement. Et la neige est vraiment dure. C'est vraiment un pays splendide.
This is beautiful country. Uvanga, Shuligalo, Uvanga, Alatkashik, Uvanga, Jerry Kasun. My whole name, Jerry Kasun.
Je m'appelle Jerry Kasun et je viens d'Inuvik, territoire du Nord-Ouest.
Northwest Territories. Bonjour.
So where we are?
We're in Tuktoyaktuk.
On est à Tuktoyaktuk. Bienvenue à Tuktoyaktuk. C'est la terre de Pingo.
Land of the Pingos.
On est au nord du cercle arctique, précisément à l'entrée de Tuktoyaktuk, comme le signale le grand panneau en forme de nuage. C'est un village d'à peine 1000 habitants et c'est difficile de le louper parce qu'il n'y a rien d'autre autour. Sauf ces pingos dont parle Jerry, ce sont des collines avec des noyaux de glace qui dominent la toundra. Et franchement, dans ce blanc immaculé, on a une toile de fond impressionnante parce qu'évidemment, comme on est en plein hiver, les pingos sont recouverts aussi de blanc.
And if you look over here to the west, we have two pingos over there.
Si vous regardez à l'ouest, vous avez deux pingos ici. Celui sur la gauche est appelé Ibiyuk, le plus gros pingo. C'est le plus gros repère terrestre canadien. Il fait environ 48 mètres de haut. Et aussi là, vous avez le système d'alerte du Nord.
Ibiyuk pingo que l'on voit devant nous, c'est le plus grand au Canada et le deuxième plus grand au monde. À l'entrée du village, on voit aussi le système d'alerte du Nord. C'est une station radar qui surveille l'espace aérien contre les intrusions potentielles. Sauf que ce n'est pas vraiment ça que veut nous montrer Jerry aujourd'hui. Ce qu'il veut nous montrer se trouve au bout du petit village que l'on traverse avec ses maisons de plusieurs couleurs, sa toute petite église, ses enfants d'environ 8-10 ans qui conduisent le skidoo, c'est la motoneige.
Today kicking it chuk very cold. Very cold, yes.
Et pendant qu'on traverse, Jerry tente de m'apprendre quelques mots en Inuvialuktun, c'est sa langue. Il fait extrêmement froid. Jerry, c'est un métis Inuvialuit et Gwinchin, c'est-à-dire enfant de parents Inuits et d'une Première Nation. Un costaud de 67 ans qui porte une grosse chemise épaisse à carreaux rouges, pas vraiment de manteau malgré les moins 45 degrés. Et Jerry sourit tout le temps et surtout, il adore son coin de pays. Et là, on arrive.
On est au bout de la rue, là. Il n'y a pas d'autre route qu'on peut prendre pour voyager ici, dans ce coin du monde. Bienvenue devant l'océan Arctique. Ma maison, j'ai habité ici. Et ma maison était là, de l'autre côté des tables de pique-nique. Et maintenant, cette terre a disparu à cause de l'érosion. J'ai eu une maison, juste ici. Je vais vous montrer ce que c'est l'érosion.
Je m'en vais marcher sur l'océan Arctique, là où il y avait des maisons. Et où il n'y a plus, c'est l'océan Arctique maintenant. Là, il y a de la neige, donc on peut marcher. Faire attention de ne pas tasser. C'est spécial.
This used to be land way out there.
La terre était là. Maintenant, il n'y a plus rien. La terre était là, derrière cette grosse roche. Maintenant, tout est érodé.
10 mètres, il y a 10 mètres, il y avait...
10 mètres, yeah, maybe more.
Oui, 10 mètres, peut-être plus. La terre était là-bas et maintenant vous pouvez voir la pression que produit l'océan. Au loin, il y a une crête de pression avec les glaces qui s'entrechoquent. Et le long de la côte, aussi, il y a de la pression. Tout a disparu à cause des tempêtes qui viennent de l'océan Arctique, de la mer de Beaufort. L'océan Arctique ronge la terre. Sa puissance est très forte. Les gens perdent beaucoup de terre ici. Il y a une grande inquiétude dans cette communauté au sujet du changement climatique à propos de l'érosion. Parce que c'est l'une des communautés les plus affectées qui se passe dans l'Arctique occidental, à notre connaissance.
Tuktoyaktuk est en effet aux premières loges du changement climatique. Avec la fonte des glaciers, le niveau de l'océan en hausse, les températures de plus en plus violentes, tout cela est venu accélérer l'érosion des côtes qui gruge la communauté depuis de nombreuses années. Des maisons ont dû être déplacées, d'autres vont l'être bientôt. Sur l'océan, Noël Cockney, cheveux longs attachés, 31 ans, est parti marcher seul, je le vois. Il a besoin de ce temps, un moment de repos, de recueil presque.
Rien que pour moi, il y a 20 ans, quand j'en avais 10, on pouvait aller là-bas, à 12-15 mètres derrière ces maisons. Mais maintenant, on ne peut plus parce que la terre s'arrête juste derrière ces maisons. Il n'y a même pas 40 ans, il y avait 25, presque 30 mètres de terre de plus sur l'océan. Et même ces deux dernières années, presque 15 mètres se sont érodés, à cause seulement de cette eau plus chaude qui est arrivée ici. Donc il n'y a plus de terre juste derrière cette maison brune, et les maisons de ma grand-mère et de ma mère sont les prochaines, juste là. C'est fini aussi, donc au printemps, ils doivent transporter nos maisons pour qu'elles ne tombent pas dans l'océan cet été. They're not going to be swept away this
summer. L'hiver prochain, Noël, sa mère Noëlla et sa grand-mère n'auront pas vu sur l'océan. Ils attendent de plier bagages, des sacs empilés partout dans la maison.
Avant, on était loin de l'océan. Mais maintenant, il lèche ma porte arrière, à un mètre. Alors, on doit faire les valises. Et ma mère a 82 ans. Elle a besoin d'aide aussi.
Noëlla n'a pas vraiment envie de quitter sa petite maison rouge qui brave l'océan. C'est son père qui a choisi cet emplacement, lui aussi qui a construit la maison. Alors,
ça va être assez difficile pour nous de quitter ce lieu. Mais malheureusement, on n'a pas vraiment le choix. Si on ne part pas, le gouvernement ne va pas nous offrir une deuxième fois l'opportunité de nous relocaliser. Et la maison va finir par tomber dans l'océan. Déjà, l'été dernier, j'ai cru qu'elle allait s'y retrouver.
Ici, au bout de ce monde qui est littéralement en train de se désintégrer, les habitants ont aussi observé d'autres signes dus au changement climatique.
La migration de certains animaux est différente. Même durant l'été, les baleines ont quitté la zone beaucoup plus tôt. Et ça, on l'observe depuis 2 ans. Mais je ne sais pas comment ça va se passer cette année, car je ne serai plus au bord de l'eau pour voir leur déplacement. Et oui, il y a une nouvelle espèce, du saumon. Beaucoup de gens attrapent du saumon ici. Et avant, jamais on le pêchait. C'est bon, mais c'est inhabituel pour eux d'être dans des eaux si troubles. Généralement, ils sont dans des eaux profondes et claires. Le printemps arrive aussi beaucoup plus tôt maintenant. Normalement, on peut rester à notre camp, au lac Husky, jusqu'à mi-mai, fin mai. Mais l'année dernière, début mai, on était revenus. C'est vraiment inhabituel. Ça a fondu si vite. Notre camp est sur une île, au milieu du lac. Et mon frère cadet a dû venir nous chercher et nous faire traverser, car tout avait fondu. C'était de l'eau. Et c'était plutôt effrayant.
Mais est-ce que vous êtes inquiète pour l'avenir de votre village ?
C'est inévitable, ça va arriver, peu importe ce qu'on fait.
Là, je chasse dans le coin. Je chasse du caribou. Je viens là, dans cette vallée. Là-bas aussi, il y a le lac Jimmy.
Retour en voiture avec Jerry. On a quitté Tuktoyaktuk pour rejoindre Inuvik, 140 km à peu près à faire. Et dans cette étendue blanche, parce qu'on est dans la toundra, donc il n'y a pas d'arbres, Jerry Kassoun est capable de me dire où sont les lacs, là où ils chassent. C'est vraiment impressionnant. Même qu'il me confie que c'est plus difficile difficile de s'y retrouver quand il est sur la route plutôt que dans les terres, parce que la route Inuvik Tuktoyaktuk dans son paysage, c'est vraiment récent.
This is a new road. This is
C'est une nouvelle route. Elle a été construite il y a 4-5 ans. Et maintenant, nous sommes connectés en Amérique du Nord, de l'océan Atlantique au Pacifique, à l'océan Arctique. C'est la première fois dans l'histoire de l'Amérique du Nord. C'est une route très importante, surtout pour les habitants de Tuktoyaktuk. Ils peuvent voyager n'importe où en Amérique du Nord.
They can travel anywhere in North America. Where do you live?
Où habites-tu?
Montréal.
Yeah.
They can travel to
Montréal. Ils peuvent aller à Montréal, New York, depuis ici.
From here, they can drive.
Cette route qui mène à la côte arctique toute l'année est bien plus que cela. Elle ouvre des fenêtres inattendues dans le domaine de la recherche.
C'est une occasion très rare pour des chercheurs dans le Nord qui normalement ont à se déplacer en avion, en hélicoptère pour se rendre sur leur site d'essai. Du jour au lendemain, on se ramasse avec un accès et encore là, un gradient qui permet d'évaluer toutes sortes de phénomènes, donc des changements de conditions de toutes sortes le long de la route et un accès extrêmement facile à des conditions nordiques. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Oui, donc, mon nom, c'est Guy Doré. Je suis professeur au département de génie civil et de génie des eaux de l'Université Laval. Je suis aussi membre du Centre d'études nordiques et je suis directeur du programme de recherche en ingénierie nordique qui s'appelle Arkuluk. Il doit y avoir plusieurs dizaines de chercheurs qui travaillent sur la route de Tuktoyaktuk. Il y a plein de stations de recherche qui ont été installées tout le long et évidemment beaucoup de stations d'observation.
Cette route, c'est un vrai laboratoire parce qu'elle traverse des étendues de pergélisol, ce sol gelé qui se trouve sous la surface dans les régions froides. À certains endroits, il a plus de 10 000 ans. Et quand il dégèle, il relâche dans l'atmosphère d'immenses quantités de méthane et de dioxyde de carbone. Il endommage aussi les routes et les bâtiments et le pergélisol dégèle de plus en plus. Depuis les années 40, si la température de surface moyenne a augmenté à l'échelle planétaire de moins d'un degré, ici, dans les territoires du Nord-Ouest, c'est d'environ 2 voire 3 degrés à certains endroits.
C'est récent, mais on constate beaucoup de phénomènes de déstabilisation. Donc, on voit le pergélisol qui évolue très rapidement. On voit de l'érosion, dans certains cas, assez dramatique. On voit la formation de ce qu'on appelle les thermokarstes, des effondrements de terrain qui sont dus à la dégradation rapide du pergélisol. On va être à la troisième année ou quatrième année d'existence de la route et on observe à chaque année des transformations radicales du paysage autour de la route avec, dans certains cas, des effets qui vont assez loin de la route. Et c'est vraiment fascinant d'observer ça. Puis là, c'est bien d'observer, mais il faut aussi dire comment on peut faire pour éviter ce genre de problème-là à l'avenir. Parce qu'il y aura d'autres routes, il y aura d'autres chemins de fer, d'autres pistes d'atterrissage dans le Nord qui vont se construire. Et à ce moment-là, on doit comprendre les effets de ce qu'on fait sur la surface du pergélisol. C'est un laboratoire de 140 km. Là. C'est une occasion encore là extraordinaire, puis c'est unique.
Et des routes comme cela, ici, on risque d'en avoir de plus en plus besoin malgré le coût exorbitant parce que les routes de glace, habituellement empruntées, elles aussi dégèlent trop vite.
We're on the river right now. Yeah. 200 kilometers long. So we are on the east branch and then we're going to be going to the west branch to Klavik. It's a very large delta.
On a Noah qui nous conduit sur la rivière Mackenzie pour aller de Inuvik à Klavik et qui nous parle des changements climatiques qu'il a lui-même constatés depuis qu'il est né. La rivière Mackenzie, déjà sur laquelle nous nous trouvons, est gelée, donc on peut l'emprunter. Il y a des barges l'été qui emmènent du fuel, des gros camions, des gros véhicules dans les villages plus isolés. Et ils nous racontent qu'avec le réchauffement climatique et la hausse des températures, le temps pour ces barges d'être sur l'eau est plus long qu'avant et donc la route glacée est elle moins longue. D'Inuvik à Klavik, il n'y a pas de route, alors il faut prendre la rivière gelée.
Ce que ça a comme conséquence, c'est que si la route de glace est moins longue, parce que la période est moins froide. Il y a des communautés qui ne sont pas desservies.
François Afan est le directeur général du Conseil de développement économique des territoires du Nord-Ouest.
Pour les gros approvisionnements, la majorité des communautés sont desservies par des petits avions. Donc c'est en hiver, quand les étendues d'eau ont gelé, qu'on va utiliser les étendues d'eau gelée, où les camions vont se déplacer pour aller approvisionner ces petites communautés.
Ça coûte moins cher en camion ?
Ça coûte moins cher en transport. Alors, si une communauté est privée de son accessibilité parce que l'hiver se réchauffe et que la période d'utilisation ou même le risque attaché à faire une route de glace est là et que le camion ne se sent pas en sécurité pour pouvoir se déplacer sur la glace, c'est une communauté qui n'est pas fournie en termes d'approvisionnement, de médicaments, de nourriture et qu'il va maintenant falloir approvisionner en avion. Donc, sur un plan économique, le calcul est vite fait. Le réchauffement climatique, là, ça nous coûte cher. Ça coûte extrêmement cher pour les communautés nordiques. C'est déjà le cas parce que, en période normale, la route de glace nous faisait à peu près 3 mois d'hiver. Ça donne le temps de pouvoir planifier les activités. Maintenant, au meilleur des cas, la route de glace va durer 1 mois et demi ou 2 mois. Donc, ça raccourcit les périodes d'approvisionnement. Ça met de la contrainte sur la chaîne d'approvisionnement et ça impacte tout le monde. Ça fait monter les coûts, ça augmente les risques, ça impacte le développement économique de la communauté et de toutes les autres communautés. Certaines communautés seraient appelées à disparaître parce que les gens sont appelés à se déplacer et ça implique le changement de leur mode de vie, ça implique le changement de leurs habitudes ancestrales, ça implique beaucoup de choses. Ça a des impacts psychosociaux, vous pouvez imaginer tout ce que cela a comme implication.
Faut rentrer ou pas ?
Arrivé à Aklavik, un ancien poste de traite situé dans la forêt boréale. Il y a à peine 600 habitants qui vivent ici, dont Dani et Annie. Quand on est dans leur maison, on voit tout de suite, aux pots d'orignal, de rats musqués et autres trophées, que ces aînés, comme on les appelle ici, sont des chasseurs et trappeurs.
I walk from all the way from Point Barrow, Alaska, to Aklavik. We had one dog team.
Danny, 84 ans, sait ce que c'est que d'être obligé de quitter sa communauté. Quand il avait 9 ans, avec ses parents et frères et sœurs, ils sont partis de la pointe nord de l'Alaska pour rejoindre Aklavik en chien de traîneau et s'installer ici. Parce que là-bas, la nourriture se faisait rare. Un voyage de 3 mois, pas de tout repos, avec des températures qui oscillaient parfois autour de moins 60 degrés, des températures que Danny ne constate plus.
Oh, l'hiver, on n'a pas atteint à Aklavik les moins 50 depuis 40 ans. On a eu moins 45 la semaine dernière, mais quand j'étais jeune, c'était moins 60. Le réchauffement climatique, ça nous affecte. Le caribou est toujours là, comme l'orignal, l'ours, les renards, les castors, les rats musqués, le lynx. Ils sont toujours là, mais il y en a de moins en moins, pas autant qu'avant. Le printemps est 2 semaines plus tôt et le gel commence 3 semaines plus tard. Oh, oui, moi j'ai constaté ça et du coup, je suis obligé de faire les choses avant les choses que j'aurais fait 3 ou 4 semaines plus tard, comme trapper en octobre. Maintenant, c'est en novembre le meilleur moment. On doit s'adapter, on ne peut pas changer cela, ça arrive.
We have to adapt to it. We can't change that. It happened, it happened.
Hey, good morning. Morning. Good morning.
On finit avec Jerry Kasson à Inuvik, où l'église en forme d'igloo lutte contre les impacts de la fonte du pergélisol. Mais là, Jerry me montre ce qui pourrait être considéré comme un aspect positif du changement climatique, le jardin communautaire qui dure plus longtemps l'été.
Ils font pousser des légumes, des fleurs. Les gens peuvent avoir plus de chances d'avoir des légumes frais durant l'été, car ici, c'est vraiment cher. Je ne sais pas si vous avez remarqué les prix dans nos communautés, mais c'est super cher.
Alors qu'on est dehors, par ce temps glacial, Jerry conclut notre séjour en me répétant ce que j'ai entendu plusieurs fois ici, au-dessus du cercle arctique.
On s'est toujours adapté. On est un peuple résilient. Ça fait tellement d'années qu'on est là, et on est toujours là, et on sera là toujours.
La résilience des Inuits face au changement climatique, un grand reportage de Marie-Laure Josselin, réalisation Eva Piedel.
Queen Annie.
Queen Annie. Hi, Joe. Yes.